Dernière demi-heure pour ce bloc qui nous mène vers la fin de l'émission avec Catherine Beauchamp. On accueille un invité qui n'a pas besoin de présentation, mais je vous le présente quand même. Le champion d'arts martiaux mixtes, Georges Saint-Pierre. Bienvenue, Georges.
Bonsoir.
Content de te voir.
Hey, merci de me recevoir.
T'as l'air bien?
Je suis très, très bien. Très heureux.
Ouais, moi, je suis impressionné.
Ah oui? C'est la première fois, Catherine, que tu rencontres Georges?
Oui, okay. Oui, oui.
Ben, écoute, tu sais que c'est un athlète extraordinaire qui a dominé son sport pendant des années, mais c'est aussi, en parallèle, un garçon extrêmement sympathique. Moi, les fois où je l'ai vu, très gentil. Aussi gentil qu'il en a l'air à la télé quand il donne des entrevues ou à la radio. Là.
Ah ben c'est gentil, je fais de mon mieux. Oui. Je fais de mon mieux.
Ben écoute, avant de parler de ta vie de retraité, parce que quand même, hein, t'es un récent retraité, je veux te parler de ton activité de ce soir. Tu pars, on t'attend pas tellement là, je te dirais, tu vas nous expliquer ça. Tu participes à la clôture d'un défilé de mode ce soir, 20h, au quartier des festivals, dans le cadre du festival Mode et Design de Montréal. Coudon, as-tu des ambitions de mannequin pour la retraite?
Oui, mais en fait, je suis associé avec Vincent d'Amérique. Mm-hmm. C'est une compagnie qui me tient à cœur parce que c'est une compagnie québécoise locale.
Oui.
Aussi, c'est leur produit, c'est des vêtements que t'es très bien habillé, mm-hmm, et que t'es très confortable. Normalement, t'as un compromis. Tu peux être très, très bien habillé, mais tu te sens tight, tu te sens serré. Avec cette compagnie-là, leur collection est faite taillée pour le mouvement. Je me sens capable de faire un backflip, un coup-pied, sauter, retourner. Donc, je me sens vraiment confortable.
Joli.
C'est très joli, puis c'est très confortable. Ouais,
est-ce que c'est ce que tu portes présentement?
C'est le meilleur des deux mondes, exactement.
OK, c'est ça. Mais c'est que taillé pour le mouvement, t'as conseillé le designer de cette collection-là, hein, Michel Grondine de Vincent d'Amérique. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Quand tu te fais appeler, « Hey Georges, on veut que tu sois porte-parole pour des trucs athlétiques, c'est une chose. Mais là, hey, porte-parole pour une compagnie de vêtements, c'est une autre affaire. »
Ouais, exactement. Maintenant, j'ai la chance, où est-ce que je suis dans ma carrière, dans ma vie, j'ai la chance de pouvoir choisir avec qui je peux m'associer.
Okay.
Et quand je me fais approcher, c'est sûr que je fais toujours un background check sur la compagnie. Et Michel, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé comme vendeur dans la compagnie. Il a fait à peu près tous les jobs possibles la compagnie jusqu'à temps qu'il monte en haut et puis il a acheté la compagnie Vincent d'Amérique. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Parce que moi, dans ma carrière, j'ai commencé en bas de l'échelle jusqu'à temps que je suis devenu champion du monde. Alors,
t'aimes les gagnants, j'imagine.
Exactement. C'est quelqu'un qui a travaillé très fort. Puis pour moi, c'est quand tu parles d'une compagnie de vêtements, c'est plus qu'une compagnie. C'est plus que juste le vêtement. C'est aussi une attitude. Ouais. C'est aussi une image que la compagnie a là. Et c'est pour ça que je suis content de m'associer à ça.
Mais tu sais, tantôt, je te disais, on t'attend pas là, mais en même temps, je pense pas me tromper en me disant que tu accordes un soin particulier à la façon de te présenter. C'est important pour toi.
J'ai été le premier en MMA à porter des vestons cravates durant les conférences de presse. Parce qu'à l'époque, je me battais pour la légitimité de mon sport. Le sport était très mal vu, mal connu.
Alors, c'est vrai, au début, il y a un déficit de crédibilité. Oui,
absolument, oui. Et les athlètes se présentaient avec des camisoles et tout, des trucs comme ça. Donc moi, j'étais toujours en veston-cravate. Et puis, même si je perdais de l'argent, parce que je me faisais offrir de l'argent pour porter certaines marques de vêtements, mais je voulais bien m'habiller parce que je croyais qu'un jour, notre sport, il était pour changer, qu'il était pour devenir mainstream à la grandeur de la planète.
C'était volontaire pour toi, tu te disais, si je suis bien habillé comme ça dans les conférences de presse, si je porte pas une camisole ou un T-shirt, je vais projeter une image de sérieux pour mon sport.
Bien sûr, parce que si on regarde les autres athlètes de d'autres sports qui sont déjà établis depuis longtemps, les joueurs, par exemple le basketball, le hockey, le football, le soccer, durant les conférences de presse, ils s'habillent en veston cravate. Mm-hmm. Une compagnie qui veut sponsoriser une athlète, ce qui est important pour eux, c'est l'image avant tout. La performance, c'est l'image. Alors, si t'as l'air d'un peu d'un clochard, si on veut, durant la conférence de presse, ben ça commence très mal.
Okay.
Donc, pour moi, c'était important d'avoir une bonne image.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a 5% des revenus ou des profits qui vont s'en aller à la fondation, à ta fondation, à toi.
Oui, tous les profits, en fait, qui sont sur le web. Et ma fondation, c'est pour contre l'intimidation à l'école. Et aussi les athlètes olympiques en sport-études. Donc, quand tu es un athlète, on le sait, la plupart des athlètes au Canada, ils ont pas beaucoup d'argent. Donc, ça les aide à mélanger les études et et leur discipline en même temps. Donc, comme ça, ils peuvent aller dans les compétitions et performer.
Vous avez sûrement reconnu sa voix si vous venez de vous joindre à nous, mais on est avec Georges Saint-Pierre pour les dernières minutes de l'émission. Je l'ai dit tantôt, Georges, tu es tombé à la retraite. Il y avait des rumeurs de combat, mais finalement, ça n'arrivera pas, je pense. Là. Tu ne vas pas revenir dans l'octogone.
En fait, avant que j'annonce ma retraite, je voulais être le premier à devenir, on appelle ça en anglais, champ. Donc, j'ai été champion de la catégorie des poids welter, des poids moyens, et je voulais devenir des poids légers. Et le champion des poids légers, c'était Khabib Nurmagomedov. C'est un Russe qui avait battu Conor McGregor. Tout le monde connaît Conor McGregor. Donc, on a vraiment essayé d'organiser ce combat-là. Par contre, le UFC ont catégoriquement refusé. Il y avait d'autres projets pour Khabib. Et par la suite, j'ai annoncé ma retraite.
Et là, tu es à la retraite, OK? Puis tu as été un athlète de très, très haut niveau, connu partout dans le monde. Le reste de ta vie, est-ce que ça te donne un petit peu le vertige? Parce qu'il doit y avoir un déficit d'adrénaline certains matins.
Ah non, pas du tout. J'ai beaucoup d'autres façons d'avoir cette adrénaline-là. Donc, je m'entraîne toujours autant.
À tous les jours?
À tous les jours. Et c'est pas parce que je peux pas recommencer la compétition, c'est parce que je ne veux pas.
Oui, oui.
Là, je peux profiter de la vie. D'ailleurs, cet automne, je m'en vais en Afrique. J'amène mon père. Mon père n'a jamais pris l'avion de sa vie.
Ah, et
je l'amène en Afrique faire un safari. Alors, c'est une expérience. C'est des expériences comme ça que maintenant, j'ai le temps de faire qu'avant, je n'avais pas le temps.
Wow.
Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Qu'est-ce que ça te fait de penser que justement, tu vas pouvoir aller avec ton père, payer à ton père ce voyage-là, lui qui n'a jamais pris l'avion, puis dire, on va aller en Afrique. C'est pas banal de faire un safari en Afrique?
Mon père n'a jamais pris l'avion parce qu'il a peur de prendre l'avion.
Okay, okay.
Et moi ma mère, mes sœurs me disent arrête de stresser ton père parce qu'il va pas vouloir faire le voyage. Et moi, je rajoute encore plus d'huile sur le feu. Je dis à mon père, je dis, tu sais, pas quand on va être dans les tentes durant le safari puis tu vas dormir, je sais que tu ronfles, mais essaie de pas ronfler trop fort parce que le lion va venir nous chercher. Et ça le stresse encore plus. Donc, je suis vraiment pas gentil de ce côté.
Non, mais Georges, quand le lion va rentrer dans la tente et qu'il va te voir, t'es tellement connu, ils vont se sauver dans sa vanne.
Ah, ouais, je pense pas, mais bon.
Est-ce que la retraite pourrait amener à faire du cinéma? Parce qu'il y avait déjà eu une avec Captain America, et est-ce qu'on pourrait aller là avec la retraite?
Je suis plus occupé depuis que j'ai pris ma retraite qu'avant que je prenne ma retraite. Mmh, mmh. Avant, c'était vraiment mon intérêt numéro un, c'était le sport. Maintenant, j'ai plusieurs autres opportunités. D'ailleurs, une opportunité dans le acting. Et j'en ai une qui s'est offerte à moi. Et on va commencer à tourner cet automne. Je peux pas en dire plus que ça. C'est quelque chose de gros, c'est international. Et le produit final va être en 2020.
OK, mais t'as fait...
C'est un rôle.
C'est un rôle, OK, ouais. Parfait. Un rôle dans un film... t'as déjà fait un peu de cinéma. Est-ce que l'expérience, est-ce que t'as trouvé ça stimulant?
J'ai bien aimé ça, mais j'avais pas le temps de me concentrer là-dessus à 100%.
Ouais, ouais.
Et tu te lèves pas un matin en étant un bon acteur. C'est beaucoup de travail, c'est des heures et des heures de travail. Je connais plusieurs acteurs et puis j'ai la chance de parler à plusieurs d'entre eux.
C'est un métier, là.
C'est un travail, tu dois mettre des heures. Pis c'est comme le sport. Hein? Je dois mettre beaucoup d'heures de travail, puis je suis des cours, et puis c'est très, très difficile.
Tu suis des cours?
Oui, absolument.
Ah oui?
Oui, parce que quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Quand je fais quelque chose, je veux être le meilleur.
Où tu prends des cours?
J'ai des amis avec qui je prends des cours à Montréal, aussi à l'international. Et quand je prends des cours, c'est des situations comme des scripts. Je révise des scripts.
Okay.
Et puis après, on fait une situation. C'est comme un combat. Là, d'après ce que tu as lu, tu recrées la situation. C'est très similaire à un combat. C'est de la répétition, répétition.
Donc, ils te font répéter des scènes.
Exactement.
OK, mais attends une minute. Là. C'est un nouveau métier pour toi. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur là-dedans?
Le plus dur, c'est d'être réel, de ne pas en faire trop.
Okay.
Moi, je suis quelqu'un qui est
très... De ne pas jouer.
Oui, c'est d'être toi-même, puis d'être toi-même dans une situation différente. Et on a tout... Moi, la première erreur que je faisais, c'est d'essayer d'en faire trop. Et quand t'as fait trop, ça marche pas.
Puis quand tu
peux pas le faire pour la caméra.
Tu regardes encore, quand tu revisionnes ta scène de combat avec Van Damme, est-ce que tu trouves que t'en faisais trop?
J'en faisais trop.
Je suis vraiment
pas satisfait de ce que j'ai fait. Je sais que je suis capable d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleur de ce que j'ai fait auparavant.
C'est pour ça que ça
m'intéresse.
J'avais rencontré Jean-Claude Van Damme quand il était venu à Montréal pour les Expendables. Et on avait eu la discussion, parce que je sais que vous êtes amis dans la vie. Puis ouais. Est-ce qu'il y a un plan de carrière qui ressemble à celui de Jean-Claude Van Damme? Tu sais, il y avait l'appellation GSP, GCVD, le jeu au cinéma et tout ça.
Jean-Claude Van Damme, pour moi, c'est un idole. C'est un idole de jeunesse. J'ai écouté le film Bloodsport quand j'étais jeune. D'ailleurs, c'est un des films qui m'a inspiré à devenir l'athlète que je suis devenu. Mais par contre, en tant que modèle, pour me former à l'image d'un certain modèle, j'essaie de prendre plus, par exemple, The Rock ou Batista. Parce que c'était des gens qui étaient des athlètes avant. C'était un athlète, un lutteur professionnel dans la WWF.
Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson. Ouais. Et puis, il a réussi à se transformer en acteur.
Oui.
Ce qui est très difficile.
C'est quand même l'acteur le mieux payé depuis hier.
Oui, c'est le mieux payé, mais il y a un physique vraiment unique. Pour moi, c'est différent, mais je suis tout d'abord, j'étais un athlète et puis j'essaie de me transformer en acteur. Donc, c'est ça le but, en fait.
On va prendre une petite pause et tu es de retour avec nous tout de suite après la pause. On est avec Georges Saint-Pierre. Vous avez reconnu sa voix, vous le connaissez, il n'y a pas besoin de présentation. On est Tantôt, je vais te parler d'argent.
Parfait.
On est de retour avec Georges Saint-Pierre. Vous le connaissez. Vous allez reconnaître sa voix tout de suite si vous venez de vous joindre à nous. Georges, je veux te parler d'argent. Autour du moment de ta retraite, t'as dit quelque chose. T'as été très lucide. T'as dit, si je fais pas le con, j'ai assez d'argent pour le reste de mes jours. Puis on se doute bien que t'as bien gagné ta vie et tu l'as mérité.
Oui.
Mais faire le con pour un gars comme toi, pour un athlète comme toi, c'est quoi?
C'est très facile de faire le con. D'ailleurs, si on regarde les statistiques des athlètes professionnels qui sont devenus millionnaires, c'est alarmant. Les statistiques sont alarmantes. Je pense qu'au football américain, dans la NFL, il y a 70 % des athlètes qui sont bankrupt.
Alors, faillite, là.
Exactement.
Okay.
Parce que quand tu es un athlète, tu fais de l'argent peut-être pendant 10-15 ans au maximum. Mm-hmm. Mais ton rythme de vie durant ces 10-15 années-là, tu le vis à l'extrême.
Oui.
Et c'est important de prévoir pour le futur. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons conseillers, puis des bons amis, et puis je leur fais confiance. Parce que, bon, le sport, c'est dans ce que je suis très doué. Mais par exemple, l'économie et tout ça, la planification financière, je ne le suis pas. Donc, c'est important d'avoir des gens compétents de ce côté-là, de son côté.
Donc,
faire le con, c'est s'acheter des bijoux, des voitures, surtout la famille. Tout le monde a besoin d'aide, tout le monde a besoin d'argent. Mmh, de donner à tout le monde et de donner sans compter.
Okay.
Quand tu es un athlète, quand tu as fait beaucoup d'argent, je pense que la clé, en fait, grosso modo, c'est de vivre sur les intérêts.
De ne pas toucher au capital.
Exactement.
Okay.
C'est ça, le but, c'est ça, c'est de vivre sur ton avoir, sur ce que tu as.
Et là, comment ça va?
Ça va très bien. j'ai assez, comme je dis, si je ne fais pas le con, pour moi, pour toute ma famille et pour tout le monde pendant longtemps.
As-tu toujours eu, Georges Saint-Pierre, cette sagesse-là ou des fois tu t'es permis une coupe de folie?
Non, je fais souvent des folies.
Okay.
Mais je dépasse pas les bornes, il y a une ligne que je dépasse pas.
OK.
J'aime la paléontologie.
Oui.
Je dépense mon argent des fois dans des choses que certaines personnes vont penser que c'est stupide, mais pour moi, c'est...
Comme quoi?
J'aime beaucoup les fossiles de dinosaures.
OK, OK.
J'achète des fossiles. Par exemple, la dernière chose que j'ai achetée, c'est une dent d'un requin préhistorique, un cacharodon mégalodon.
Un
mégalodon. Okay.
Ouais.
Bon, ben, j'ai ça chez nous. J'en ai plusieurs chez nous. J'ai plusieurs trucs chez moi comme ça parce que je suis passionné. Pour moi, ça a une valeur sentimentale. Mm-hmm. Pour quelqu'un d'autre, ça n'a aucune valeur, mais il y a une ligne que je vais respecter. Tu comprends? Je suis pas quelqu'un qui va s'acheter une voiture, une Ferrari ou un truc comme ça, mais bon, pour les trucs comme ça, bien manger, les vacances, prendre des belles vacances, comme aller amener mon père en safari, bien manger, bon restaurant, des trucs de paléontologie, des fossiles, ça, des choses que j'aime dépenser.
Je veux rester sur l'argent une seconde parce que, bon, t'as bien gagné ta vie, mais t'as aussi contribué à créer de la richesse pour cette ligue professionnelle qui s'appelle le UFC.
Mm-hmm.
Et toi, quand tu as commencé à monter, ben avec toi, le UFC a monté. Est-ce que tu trouves que tu as été rémunéré à ta juste part? T'sais, je comprends que tu as bien gagné ta vie, mais penses-tu que tu as eu ce que tu méritais de la part de cette ligue-là?
En fait, c'est sûr, dans tous les sports, tous les nouveaux sports, si on regarde le hockey aussi, dans le temps de Maurice Richard,
qui a été exploité.
Guy Lafleur, les athlètes étaient exploités. J'ai été exploité au début, moins par la suite. Et les athlètes aujourd'hui sont moins encore exploités, mais ils sont quand même. C'est comme tous les autres sports, ça va changer avec le temps. Les arts martiaux mixtes c'est pas différent. Je me souviens, mon premier combat à l'UFC, j'ai fait 3 000 plus 3 000, 6 000 $. C'est mon premier combat à l'UFC, 6 000 $.
Wow. Pour risquer ça sa couvre vie. Même pas. Risquer ta vie, Georges, ça couvre même pas tes frais d'entraînement.
Ouais, attendez, mon premier combat de championnat du monde contre Matt Hughes, je l'ai perdu. C'était 9 plus 9, 9 000 plus 9 000. Donc, j'ai perdu, j'ai fait 9 000.
Ça prend combien de temps à récupérer d'un combat?
Ah, ça varie toujours, mais bon, quelques jours, en fait. J'ai été très chanceux de ce côté-là.
T'as pas d'amertume par rapport à ça?
J'ai pas d'amertume parce que si c'était à refaire, je le ferais quand même. Parce qu'à l'époque, je le faisais quand même par passion. J'ai commencé à faire des arts martiaux pour me défendre contre l'intimidation à l'école. Ouais. Après ça, ça a été comme passion. Et après, la passion est devenue une business. La compétition, une business. Mm-hmm. Et là, maintenant, c'est ma vie. Je gagne ma vie avec ça.
Je me demandais, est-ce qu'à un moment donné, tu sais, t'es Georges St-Pierre. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été lourd d'être Georges St-Pierre? Parce que, tu sais, un joueur du Canadien de Montréal, ici, s'il s'en va en Afrique avec son père, il y a beaucoup de chances que le garde-chasse ne le reconnaisse pas. Toi, partout dans le monde, on te reconnaît.
J'étais en Afrique il y a quelques années. Je suis allé voir les gorilles en Afrique.
Ouais.
Et puis, il y avait des gardes qui m'ont reconnu. Et moi, j'étais surpris. J'étais, mon Dieu... Vous connaissez bien le sûr. UFC en Afrique? Ouais, puis, ouais. Ils connaissaient, ils m'avaient reconnu.
Mais est-ce que c'est lourd, ça, des fois? Ça
dépend de quelle façon c'est fait. Il y a des bonnes choses, par exemple. Moi, j'essaie de voir le positif.
Okay.
Ça peut te donner un accès VIP à certains trucs que les autres n'ont pas la chance d'avoir.
Oui.
Par contre, c'est sûr que quand c'est toujours présent, ça dépend de la façon que c'est fait, mais la plupart des gens sont très gentils, mais il y en a des fois qui sont un peu irrespectueux, qui ne respectent pas cette barrière d'intimité que tu aimes avoir.
Ah, Georges, c'est toujours le fun de te parler. T'es la preuve vivante que les bons gars peuvent finir premier.
Je rappelle que le défilé ce soir est à 20h. Que c'est gratuit, les gens peuvent aller voir le défilé.
On peut te voir défiler
en
mannequin.
Que tu vas apparaître à la fin du défilé.
À la fin, oui, exactement.
Et puis on dit merci beaucoup.
Merci. Georges. Merci.
Merci à vous.
Merci tout le monde d'avoir été là avec nous au Québec maintenant. On est de retour demain, 15h, même heure, même poste. Je vous laisse avec Mario Langlois aux amateurs de sport. Bonne soirée.